Bonjour messieurs, bonjour Antoine, bonjour Yvon.
Bonjour. Bonjour.
J'aime bien la synchro. Yvon, tu es élu sans étiquette à la mairie de Triel-sur-Seine. Et avant, tu as été consultant indépendant et tu as exercé différentes responsabilités chez ERDF et EDF. Antoine, tu es entrepreneur à Montesson, spécialité bureau d'études environnement, avec une expérience collectivité territoriale en qualité de directeur de l'environnement à la mairie de Montesson. La raison de notre entretien pour cet épisode du podcast Génie soit-il est la proposition d'Yvon, qui a constaté que la démocratie locale est en panne. Avec 100 élus communaux des Yvelines, toutes tendances politiques confondues, vous vous êtes associés en un collectif de représentants des minorités au sein des conseils municipaux. Collectif qui a pour objectif de présenter une série de propositions pour rénover la pratique de la démocratie locale. Et une des premières actions que vous avez entreprises, début 2023, est la création d'un baromètre de la démocratie locale interrogeant 500 élus d'opposition à l'échelle nationale, dont 27 réponses ou contributions d'élus viennent d'élus des Yvelines, pointant les dysfonctionnements démocratiques de certains conseils municipaux. Peux-tu nous expliquer, Yvon, pourquoi cette idée et comment vous comptez la faire aboutir, ce qui n'est pas le moindre des défis ?
Bien, merci pour cette présentation, merci de m'accueillir. Quand on a réalisé le baromètre de la démocratie locale et qu'on a commencé à étudier les réponses, on a effectivement constaté que 27 élus des Yvelines avaient répondu à ce baromètre, et j'ai souhaité prendre contact avec ces 27 élus pour évaluer l'intérêt de nous structurer à l'échelle départementale, parce que je pense que l'échelle départementale est un niveau pertinent pour structurer ce collectif. Pour une raison simple, c'est que les autorités préfectorales sont structurées à l'échelle du département, que les élus type parlementaire sont aussi structurés à l'échelle du département, que des associations d'élus existent, et notamment des maires, existent aussi à l'échelle départementale. Donc ça nous semblait être un niveau plutôt pertinent pour structurer un collectif. Et puis, donc, j'ai pris contact avec ces élus, ces 27 élus, et très rapidement, j'ai eu un accueil qu'on peut qualifier d'enthousiaste, parce que être élu d'opposition, la première caractéristique, c'est d'être isolé. On est isolé dans sa commune. Quand on veut pouvoir faire valoir ses droits, on écrit au préfet, on s'adresse au préfet. Assez fréquemment, on n'a pas de réponse. Donc on a une vraie difficulté à exister dans un conseil municipal face à une majorité pléthorique, face à une absence de réponse quand on sollicite des recours, et notamment celui du préfet. Donc une situation d'isolement, et face à ça, la réponse qui pourrait être celle de construire un collectif départemental, très naturellement, très spontanément, les élus m'ont répondu favorablement. Donc, derrière, on a pris des contacts avec d'autres élus, et de fil en aiguille, bouche à oreille fonctionnant, des élus de différentes communes nous ont rejoints, à tel point qu'aujourd'hui, 3 mois après le lancement de l'opération, on comptabilise au niveau du collectif 100 élus, comme ça a été dit tout à l'heure, issus de 42 communes des Yvelines, ce qui commence à quand même être assez significatif par rapport à l'ensemble des communes du département.
Alors, peux-tu nous expliquer de façon factuelle quelle est la problématique de cette représentativité démocratique qui ne fonctionne pas ?
Le problème déjà commence au soir des élections, quand après le dépouillement, on procède à la répartition des sièges. Alors, ce que ne savent pas, et ce que j'ignorais moi en tant que citoyen, ce que ne savent pas donc la plupart de nos concitoyens, c'est que le mode de calcul des sièges est une aberration démocratique en tant que telle. C'est-à-dire que l'équipe qui arrive en tête, la liste qui arrive en tête, récupère 50% des sièges d'emblée, le reste étant réparti à la proportionnelle. Ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par des villes où il y a des écarts de voix, mais qui sont infimes. J'ai en tête un exemple, par exemple, à Verneuil-sur-Seine, où on a un écart de 32 voix. La liste arrivée en tête récupère 23 sièges. La liste arrivée en seconde position en récupère 6. Démocratiquement, ça pose un vrai problème de représentativité de l'opposition. Déjà, donc, ce qui veut dire que l'opposition est privée de moyens pour pouvoir fonctionner efficacement durant la durée du mandat, qui est quand même de 6 ans, rappelons-le.
Alors effectivement, ça pose un problème. On peut le constater dans beaucoup de mairies, et je prendrai celle qui me concerne, Montesson. L'équipe municipale en place a gagné les élections avec 53% des voix. Et aujourd'hui, alors j'espère que je ne me trompe pas dans les chiffres, il y a 33 élus au total, dont 7 sont des élus d'opposition. Donc il y a effectivement un déséquilibre, je confirme, et ce n'est pas une critique bien évidemment vis-à-vis de la situation montessonaise, mais il y a un déséquilibre entre le poids que représentent les élus d'opposition par rapport à ce qu'ils représentent, enfin le poids démocratique qu'ils représentent par rapport à ce qu'ils représentent en termes de voix ou de contribution.
Pour résumer, quand il faut 100 voix pour élire un élu de la majorité, il en faut 300 à 400 pour élire un élu d'opposition. Ça montre quand même le décalage qui existe. J'ai pas inventé les chiffres, j'ai testé sur différentes communes. On est dans cet ordre de grandeur. Donc ça pose un vrai problème. Et le premier problème, les dommages collatéraux, ils débutent au sein de la majorité. Parce que quand vous êtes maire et que vous vous retrouvez avec une majorité pléthorique, pourquoi vous intéressez forcément à votre groupe de la majorité? Vous avez tendance à vous appuyer sur quelques élus, le reste de votre groupe, vous en désintéressez, vous n'avez pas un vrai management de groupe, vous appuyez pas sur une vraie dynamique de groupe, vous êtes plutôt dans une situation confortable, où vous considérez que vous avez une majorité très confortable, et si vous perdez au passage quelques élus démissionnaires ou autres, c'est pas très grave, parce que vu le nombre d'élus que vous avez au départ, ça pose pas de problème. Sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui, trois ans après les élections, les dernières élections municipales, que dans nombre de mairies, il y a des élus de la majorité qui sont démissionnaires. Dans nombre de mairies, il y a des élus de la majorité qui sont entrés en dissidence et qui rejoignent parfois les rangs de l'opposition. Donc ça montre déjà que cette prime majoritaire, elle a un effet néfaste au niveau de l'équipe majoritaire en place et avec pour conséquence de mettre en situation plus fragile le maire dans de nombreuses villes. Le deuxième effet qui est désastreux, on va dire, c'est un problème de moyens aussi pour l'opposition de pouvoir fonctionner, parce que quand vous avez que 5 ou 6 élus, pour travailler sur l'urbanisme, sur les affaires scolaires, sur les finances publiques, pour travailler sur tous ces dossiers, ça veut dire que vous n'avez pas énormément de moyens pour pouvoir faire l'ensemble du job. Et donc derrière, ça pose un vrai problème de représentation du contre-pouvoir que devrait être l'opposition pour faire son vrai travail de contrôle de l'activité de la majorité au sein du conseil municipal et d'information, bien évidemment, de nos concitoyens. Mais ça, c'est aussi un autre sujet.
Alors, est-ce que ça veut dire que les élus de l'opposition sont de simples spectateurs de ce qui se passe dans les conseils municipaux ?
C'est ce qu'aimeraient bien les élus majoritaires. On essaye quand même de pas rentrer dans ce rôle de simple spectateur. On fait notre job en termes de contre-proposition dans les conseils municipaux, et c'est pas toujours facile, parce qu'il y a pour différentes raisons. Parce que là, on s'est intéressé à un des volets de la démocratie, qui est celle du calcul des sièges au niveau du conseil municipal. Il y a d'autres volets aujourd'hui qui posent question sur le fonctionnement démocratique des conseils municipaux. Quand vous êtes élu municipal d'opposition, il est très difficile d'avoir accès à l'information. Accéder aux services, disposer de l'information sur des délibérations qui peuvent y compris constituer des enjeux pour l'avenir de la ville et ses habitants, c'est très difficile. On est régulièrement obligé de saisir la commission d'accès aux documents administratifs parce que le maire refuse de nous communiquer les éléments d'information. Donc, en tant qu'élu d'opposition, une autre difficulté, c'est celle de l'accès à l'information. Difficulté supplémentaire qu'on a, c'est celle de pouvoir communiquer en direction de nos concitoyens, qui sont quand même nos électeurs pour certains d'entre eux. On a une vraie difficulté aujourd'hui à pouvoir accéder aux outils de communication qui sont ceux de la commune. Dans le journal municipal, et ça tout un chacun peut le vérifier, les élus d'opposition disposent d'une tribune en fin de journal municipal coincée généralement entre deux publicités. Vous avez la possibilité d'écrire une tribune de l'ordre de 1000-1500 caractères, espace compris. Ça veut dire que vous avez quasiment la possibilité c'est très difficile de pouvoir communiquer dans un cadre aussi restreint et de rendre compte de son mandat avec des moyens aussi restreints. Et Et pour en rajouter un peu dans le paysage, dans la plupart des communes, alors que le droit nous permet d'avoir accès aux moyens numériques de la commune, nous n'avons pas la possibilité de communiquer via les réseaux sociaux de la commune ou via le site internet de la commune. Ce qui veut dire qu'en fait, la seule communication dont à disposition l'ensemble des élus, une grande majorité des élus d'opposition, c'est cette fameuse tribune dans le magazine municipal.
Oui, mais ça, c'est la voie officielle. Mais les élus de l'opposition, ils peuvent très bien, avec les moyens techniques modernes d'aujourd'hui qui sont accessibles au plus grand nombre, que ce soit par un blog pour l'écrit, par l'audio pour les podcasts ou par la vidéo sur YouTube, ils peuvent très bien défendre leur point de vue et être dans une position qui vise à défendre leur vision des choses et la façon dont ils défendent les intérêts des Montessonais. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier, à titre d'exemple, que le président de la République, il est élu peut-être pas par 100% des Français, mais il représente l'intérêt de la totalité des Français. De la même façon, un maire, il représente la totalité des citoyens de sa commune, indépendamment du fait qu'il n'ait été élu qu'avec une petite partie ou une partie plus ou moins importante de cet électorat.
On est d'accord, mais il vous a pas échappé que le président de la République n'a pas non plus le monopole de l'information au niveau des outils de communication, que ce soit les chaînes de télévision publiques ou les autres médias. Il y a quand même un système de contrôle sur la prise de parole aujourd'hui des élus au niveau national qui vise à équilibrer le temps de parole des uns et des autres. Au niveau d'une commune, c'est 1500 signes, caractères compris. Quand on voit ce que représente en nombre de caractères un magazine, et d'ailleurs il faudrait qu'on se livre à cet exercice, mais on voit bien le décalage qu'il peut y avoir et les contraintes qui sont imposées en matière de liberté d'expression aux élus d'opposition. Donc nous, très clairement, on dit aujourd'hui, le système démocratique en France, il est en panne au niveau local, sans doute plus et certainement plus qu'au niveau national.
Alors, que proposes-tu pour pouvoir remédier à ce problème de démocratie, d'une certaine façon ?
Ah ben, moi, nous, ce qu'on propose, c'est aujourd'hui, il faut qu'on fasse tous un pas de côté, qu'on soit élu de la majorité ou élu d'opposition, et qu'on prenne le temps d'observer ce qui se passe dans les conseils municipaux. Aujourd'hui, il y a des débats qui sont en train de s'installer au niveau national sur le statut de l'élu. Le Sénat s'en est saisi, l'Assemblée nationale va s'en saisir. Le gouvernement est à la manœuvre sur le sujet. Sur cette question du statut de l'élu, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ait une vraie vision, c'est qu'on élabore un vrai diagnostic du fonctionnement démocratique, du fonctionnement de la démocratie locale dans ce pays. Il faut qu'on regarde comment fonctionnent les conseils municipaux. Aujourd'hui, moi, j'observe que l'AMF, en relation avec le Sénat, a sollicité le CVPOF, l'AMF, l'Association des maires de France, avec le Sénat, a sollicité un organisme issu de Sciences Po pour aller pour étudier la situation de la démocratie locale en interviewant simplement les maires, les adjoints, les conseillers municipaux qui ont une délégation. C'est un peu comme si on allait aujourd'hui, pour faire l'état des lieux de la démocratie au niveau national, interviewer le président de la République, les ministres et les secrétaires d'État. C'est quand même un peu réducteur. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'on fasse un vrai diagnostic, que ce soit le CVPOF ou un autre institut se penche effectivement sur le fonctionnement des conseils municipaux et vienne ausculter le fonctionnement des conseils municipaux, observe ce qui se passe ou ne se passe pas dans les conseils municipaux, la possibilité d'intervention des élus d'opposition, notamment dans les conseils municipaux. Par exemple, ce que ne savent pas aujourd'hui nos concitoyens, c'est qu'un élu municipal ne peut pas mettre d'opposition, ne peut pas mettre une question à l'ordre du jour du conseil municipal. Le maire est libre de refuser toutes les questions qui peuvent être qu'un élu municipal d'opposition peut proposer pour qu'elle soit mise à l'ordre du jour du conseil municipal. Ça pose un vrai problème de fonctionnement démocratique. À l'Assemblée nationale, il y a les niches parlementaires, par exemple.
Le maire a un pouvoir de sélection aussi important qui fait qu'il coupe la parole à l'opposition. Il muselle l'opposition.
Le maire a le pouvoir de police, c'est ce qui est écrit dans la réglementation au niveau de la gestion des débats. Il peut décider, si une majorité le soutient, de prononcer le huis clos ou ce genre de choses. Donc le maire a beaucoup de pouvoir au niveau du conseil municipal. Maintenant, c'est vraiment pas caractéristique, je dirais, d'un vrai fonctionnement démocratique. Parce qu'aujourd'hui, on peut effectivement museler l'opposition. Moi, j'observe, y compris dans mon conseil municipal, que quand nos interventions dérangent, le maire coupe le micro. Voilà, ce genre de pratique. Est-ce que c'est favoriser le débat démocratique? Je n'en suis pas convaincu, quoi. Et loin s'en faut.
Alors, moi, ce que je vais me faire l'avocat du diable, j'ai constaté en m'intéressant depuis quelque temps à la vie démocratique locale.
Je note que le diable est le maire.
Le diable est le maire. Je constate que j'ai observé que la fonction de maire, c'est une fonction extrêmement compliquée. La gestion d'une commune, c'est très compliqué. Et en plus, il a une marge de manœuvre qui est très faible, avec l'épée de Damoclès, qui est le préfet ou le sous-préfet au-dessus de la tête, qui va le contrôler à tous les coins de rue. Donc, c'est pas non plus très évident de diriger une mairie. Donc, il a des contraintes, le maire aussi. Comment est-ce qu'on peut concilier le fait de développer une relation intelligente, démocratique entre les élus de l'opposition et de la majorité, avec de toute cette complexité administrative, réglementaire, qui est le propre du système français?
C'est la difficile équation de la vie démocratique qu'on retrouve au niveau national. On pourrait aussi considérer que le président de la République a une charge tellement importante qu'il peut aussi s'exonérer de tout débat démocratique au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Aujourd'hui, au niveau local, oui, le maire est confronté à des difficultés. Oui, c'est pas simple d'être maire. Et peut-être qu'on aura des difficultés à avoir des listes dans certaines villes en 2026. Mais si on ne travaille pas sur ces problèmes de démocratie locale, moi je suis très inquiet par rapport à l'avenir. Je suis très inquiet notamment sur le fait que les élections, le niveau local, c'est aussi le sas pour préparer les futurs élus nationaux de demain. Et si ces futurs élus sont formés au débat démocratique sous l'angle de ce qui existe aujourd'hui dans nos municipalités, je crains fort pour le fonctionnement démocratique de notre pays à l'échelle nationale. Donc il y a un véritable enjeu. Oui, la démocratie, c'est pas simple, c'est un exercice compliqué. Oui, la recherche du compromis, c'est quelque chose de difficile. Mais quand on est réussi à sortir avec un compromis qui est acceptable par tous, on sort avec dans un climat qui est beaucoup plus apaisé. En France, on a la démocratie, elle se fonde sur trois mots. La République se fonde sur trois mots, c'est liberté, égalité, fraternité. Je note que dans le fonctionnement des conseils municipaux, la liberté, elle n'est pas forcément au rendez-vous, notamment sur la question de la liberté d'expression, que la question de l'égalité, elle n'est pas non plus forcément au rendez-vous sur les moyens de communication pour les élus d'opposition, comme je disais tout à l'heure, sur les moyens pour pouvoir exercer véritablement votre mandat. Et puis je note que sur la fraternité, c'est une vraie catastrophe. Parce que quand on regarde la tonalité des débats aujourd'hui au niveau des conseils municipaux, on est plutôt dans l'invective que dans la recherche du compromis. Et on ne pourra pas, dans ce pays, faire évoluer les mentalités, tendre vers une plus grande culture du compromis, si on en reste toujours à ces modes de fonctionnement. Donc c'est le système qu'il faut changer. Les hommes, ils sont prêts à s'adapter, ils sont prêts à évoluer, mais il faut que le système évolue, il faut que la loi évolue pour permettre effectivement le développement d'une vraie culture du compromis demain.
Il faut hacker le système électoral local français. Alors, nous sommes le 17 octobre, dans quelques jours, quelques semaines, je ne me souviens plus exactement de la date, il va y avoir le Salon des maires. Est-ce que vous allez profiter de cette occasion pour faire passer votre vision des choses et quelle est cette vision précisément ?
Mais on va se saisir de toutes les opportunités pour prendre la parole. Là, on vient de lancer un baromètre de la démocratie représentative dans les communes des Yvelines. Au moment où on recensera les résultats, on recueillera les résultats, on va prendre la parole pour dire, voilà, nous on dit ça depuis plusieurs semaines, on s'exprime en tant que collectif. En parallèle, on s'appuie aussi sur des résultats et des enseignements aujourd'hui qui ont été observés dans X communes des Yvelines. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps un sénateur nous dire, oui, mais vous êtes, vous fédérez les mécontents. Moi, très honnêtement, j'ai des élus au téléphone qui sont y compris issus de petites communes des Yvelines. Les problèmes de fonctionnement démocratique, c'est pas l'apanage de quelques communes. C'est une situation aujourd'hui qui est quasiment générale dans toutes les communes. Là, à la limite où ça fonctionne bien, c'est là où il n'y a pas d'opposition. Et ça existe dans des communes parce qu'il n'y a eu qu'une liste aux dernières élections. Mais on voit bien qu'il y a une vraie nécessité à travailler sur cette question-là. Et nous, toutes les opportunités qu'on aura, que ce soit le Salon des maires, où on peut effectivement on essaiera de prendre la parole à ce moment-là, mais on est un collectif départemental, on n'a pas non plus la prétention de pouvoir prendre la parole au Congrès des maires. Par contre, interpeller les médias nationaux, proposer des tribunes aux médias nationaux ou ce genre de choses, oui, on va faire. Et on va s'appuyer justement sur des éléments tangibles qui nous permettront d'étayer le discours qu'on tient aujourd'hui et qui est déjà fondé sur le ressenti qu'on peut avoir dans nos conseils municipaux, plus que le ressenti, le vécu qu'on a au sein de nos conseils municipaux. Mais il faut qu'on arrive à le définir plus précisément, à dire voilà ce qui se passe dans X conseils municipaux, là où aujourd'hui le droit n'est même pas respecté et ça se passe dans X conseils municipaux. Il faut qu'on arrive à affiner, je dirais, le diagnostic pour le rendre encore plus crédible.
Alors, il y a un élu dans les Yvelines qui connaît très bien ça et qui est tête d'affiche, si je peux dire, Gérard Larcher. Est-ce que vous l'avez contacté? Est-ce que vous comptez le rencontrer prochainement pour lui le convaincre de ces changements, de la nécessité de ces changements? Parce qu'il y a une tâche, la tâche est lourde. Il faut faire une réforme du système réglementaire, législatif, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tous les cas, c'est pas seulement dans les Yvelines qu'il va falloir faire bouger.
Ah, mais c'est de toute façon la situation, elle est générale au niveau de ce pays, elle n'est pas spécifique aux Yvelines. S'il y avait que les Yvelines, ça serait à la limite, on en serait très content. Oui, on a rencontré Gérard Larcher. On a eu l'occasion d'échanger avec lui, de présenter des 15 propositions qui ont été élaborées par le collectif en faveur de la démocratie locale. Il a été attentif à nos propositions. On a notamment mis en avant le fameux diagnostic sur lequel il nous semble important de travailler avant toute prise de décision, donc dans le cadre d'un ce qu'on appelle un observatoire national de la démocratie locale. Il entend bien les remarques qu'on peut faire aussi sur la représentativité des élus d'opposition via cette fameuse prime de 50%, prime majoritaire de 50%, sur lequel il considère effectivement qu'il doit y avoir des évolutions, il nous l'a dit, et sur lequel il dit il faut qu'on fasse dans un premier temps une étude d'impact pour voir éventuellement si ça va pas le seuil le plus adapté pour ne pas non plus déstabiliser le fonctionnement des conseils municipaux. Il est bien conscient qu'il faut aussi donner plus de moyens de fonctionnement aux élus d'opposition pour qu'ils puissent exercer leur mandat. Donc, il a eu une oreille plutôt attentive. Maintenant, quid du passage à l'acte? C'est le prochain épisode. Nous, on attend de voir effectivement. Il s'est engagé à reprendre contact avec nous. On espère effectivement qu'il reprendra contact avec nous ou via un autre sénateur de son parti au niveau des Yvelines, mais qu'on puisse continuer à avancer. Nous, l'idée, c'est pas simplement de prendre la parole, mais c'est de prendre la parole pour faire évoluer les choses. L'objectif, c'est de dire demain, il faut que les conseils municipaux fonctionnent mieux parce que, je le disais tout à l'heure, 2026, il risque d'y avoir des villes dans lesquelles il n'y aura pas de listes qui se présenteront. Et si on veut donner envie à nos concitoyens de s'investir dans un mandat local, il faut qu'on travaille plus en profondeur sur le fonctionnement démocratique des conseils municipaux notamment. Parce que aujourd'hui, un concitoyen, s'il veut s'engager dans un mandat électif local, il lui suffit de visionner le conseil municipal de sa commune pour se rendre compte très rapidement qu'il n'a peut-être pas intérêt à y aller.
Oui, c'est difficile. Alors, est-ce qu'on peut s'appuyer aussi sur nos élus que sont les députés? Je pense particulièrement à la nôtre, puisque la députée de notre circonscription, c'est Yaël Braun-Pivet. Est-ce que vous avez contacté dans les Yvelines les différents députés de nos circonscriptions?
Ça fait partie de des actions qui ont été lancées récemment. Donc actuellement, alors l'avantage du collectif, c'est qu'il est transpartisan. Donc il y a à la fois des élus d'opposition LR, des élus d'opposition Europe Écologie Les Verts, socialistes, centristes du parti présidentiel. Donc c'est on pourrait dire que ça doit être difficile de fonctionner avec des sensibilités politiques aussi différentes. Pas du tout. Ce qui est fabuleux, c'est que les 15 propositions, on les a élaborées avec autour de la table cette diversité diversité politique et tout le monde convergeait pour retenir les mêmes idées. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel tout le monde a envie de travailler, et le fait qu'on ait des élus de sensibilités politiques différentes, ça nous permet aussi d'aller au contact des parlementaires qui sont de sensibilités politiques eux aussi différentes. Et donc, les élus du Parti Renaissance sont actuellement en train de prendre contact avec leurs députés, des élus d'autres partis, notamment de la NUPES, sont aussi en train de prendre contact avec les deux parlementaires, les deux députés qui ont été élus sous cette bannière aux dernières élections législatives. Donc, oui, l'idée, c'est d'aller voir les parlementaires, parce que l'objectif, c'est aussi de faire évoluer la loi en profondeur et de montrer quelle est la situation aujourd'hui de la démocratie locale, parce que je suis pas convaincu que tous les parlementaires aujourd'hui y soient forcément sensibilisés, dans la mesure où beaucoup n'ont pas forcément eu un parcours d'élu local avant d'accéder à des responsabilités nationales. Si on regarde les élus de notre territoire, je suis pas convaincu qu'il y en ait une majorité qui soit passée par un mandat de maire ou de conseiller municipal avant d'accéder à de plus hautes responsabilités.
En clair, ils n'ont pas vécu l'expérience que tu es en train de vivre depuis quelques années.
En clair, ils n'ont pas vécu forcément cette expérience, et j'aspire effectivement à vivre la leur dans quelques années. Mais c'est une boutade. C'est une boutade.
Antoine, as-tu une question ?
Pas forcément de questions. Enfin, c'est assez clair et assez limpide. On sent qu'il y a une vraie maturité sur le problème qui est abordé et qui est considéré. Moi, je peux simplement donner mon point de vue des services, étant donné que j'ai travaillé pour le compte d'une collectivité. Et on a eu un rapport, effectivement, avec les élus d'opposition, très faible, par le biais des commissions. Les commissions thématiques où, théoriquement, il est censé y avoir un élu d'opposition qui est censé être présent. Et donc, ça a été, en l'espace de presque 2 ans de travail sur un poste de direction dans une collectivité, ma seule interaction principale avec les élus d'opposition. C'était une tribune pour eux. Ça dépendait des sensibilités de chacun. Certains s'en servaient comme tribune politique. D'autres regardaient réellement le projet qui était abordé et se servaient du temps de parole qui leur était donné pour y proposer des amendements. Ça a donné lieu, dans certains cas de figure, à des projets constructifs. Donc peut-être que c'est un des axes de travail aussi concrets à explorer, les commissions, faire en sorte de les rendre peut-être obligatoires ou de manière plus régulante, puisque leur organisation est quand même soumise au bon vouloir de la majorité. Par le biais de commissions obligatoires, on pourrait tout à fait donner plus de pouvoir, au moins un droit de regard sur le travail qui est réalisé par la majorité aux élus d'opposition, je trouve. Donc ça, c'est vraiment la chose que ça me fait émerger sur le seul lien. C'est d'ailleurs assez dommage que les élus d'opposition n'aient pas accès à quelqu'un des services, que ce soit un point d'entrée. C'était même d'ailleurs le cas, et ça me permet d'ouvrir sur le second point que je voulais aborder, qui était les limites un petit peu de cette manière de fonctionner avec ces groupes pléthoriques. Effectivement, on avait même parfois des difficultés à travailler avec la liste de la majorité qui était déjà très importante en nombre, et il y avait parfois des concurrences entre les élus sur la portabilité en interne auprès des services de leur propre projet. Donc déjà, si c'est compliqué entre des élus de la majorité, comment voulez-vous laisser la place à des élus d'opposition ? Donc je suis tout à fait d'accord que c'est un peu un problème que j'ai constaté, que j'ai vu par moi-même. On a effectivement le maire qui se recentre avec quelques élus très proches. Et derrière, on a un peloton, un peu, je dirais, d'élus qui suivent, qui viennent voter les délibérations un peu automatiquement et sans forcément se sentir acteur de leur mandat. Et ça ouvre effectivement sur ce constat, sur les moyens de fonctionnement qui sont dérisoires. C'est déjà un des reproches qui est fait aux élus locaux sur le manque de moyens. Il avait été question à un moment d'une formation. Je sais qu'il y a des séminaires qui sont organisés au niveau des élus. Alors, je ne sais pas si les élus de l'opposition ont pu participer à ce séminaire. Peut-être visiblement que si. Je crois qu'il y a des choses à creuser aussi, à maîtriser le code général des collectivités territoriales et aussi voir un petit peu les moyens qui s'offrent aux différents élus, qu'ils soient d'opposition ou de la majorité, pour œuvrer dans l'intérêt du collectif et des administrés.
Très intéressant ce point sur les commissions de la part d'Antoine. Quelle est ta vision des choses ?
Alors, les commissions, ça pourrait être... D'abord, les commissions obligatoires, oui, il faudrait qu'il y ait certaines commissions soient rendues obligatoires. Aujourd'hui, on observe dans certaines villes l'absence de commissions finance, par exemple.
Et celle des appels d'offres, elle n'est pas obligatoire ?
Si, la commission...
Il y a l'urbanisme, je crois.
Même pas. Vous avez la commission d'appel d'offres, il y a la commission de contrôle des listes électorales, vous avez ce genre de commissions qui sont obligatoires. Les autres ne sont pas obligatoires sur l'urbanisme,
sur l'environnement, sur
les finances. Alors que la question du budget, c'est quand même fondamental dans une collectivité territoriale. Et c'est pas des commissions obligatoires. Vous prenez la ville de Magnanville aujourd'hui, il n'y a pas de commission finance. Voilà, donc du coup, comment vous préparez le débat en conseil municipal ? Difficile. Le problème des commissions, le plus souvent, alors ça fait partie des questions qu'on pose dans le cadre de notre baromètre, mais je l'avais posé aussi au niveau national. Le problème des commissions, c'est que généralement, le maire les réunit 4-5 jours avant le conseil municipal. C'est un peu l'antichambre du conseil municipal pour tester sur quoi va se positionner l'opposition, et puis éventuellement préparer les contre-arguments pour le conseil municipal. Donc c'est ce qu'il faudrait, en fait, moi, la préconisation que j'aurais tendance à faire, c'est dire, mais travaillons sur du temps long au niveau des commissions. Et ça permettrait, y compris pour la majorité, que l'opposition sorte de sa dimension parfois un peu vindicative, théâtrale, de la commission qui se situe juste avant le conseil municipal. Et si on avait cette prise de recul, ce temps nécessaire pour organiser les débats, pour discuter entre nous en amont des dossiers, ça favoriserait certainement... Alors pour le coup, je parlais de culture du compromis, je pense que ça favoriserait le rapprochement des points de vue. Peut-être ça permettrait de tendre vers des compromis sur certains sujets à un moment donné. Donc moi, voilà un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui par rapport aux commissions. Je pense qu'elles sont un peu détournées aujourd'hui, même voire très fortement détournées, de ce qui devrait être leur finalité, c'est-à-dire d'être des véritables espaces de débat plutôt ouverts, de concertation, d'échange, alors qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. C'est, pour le coup, les commissions sont l'antichambre du conseil municipal.
Alors que normalement, elles doivent être le lieu de débat, de réflexion, de construction de l'avenir de la commune.
Où là, on n'est pas dans le cadre réglementaire contraint du conseil municipal. On est dans un espace qui est plus informel, où on peut discuter et où on a droit à l'erreur, où on a le droit de reconnaître, où c'est beaucoup plus facile. Donc c'est évident que c'est un espace qui devrait... Nous, le sentiment qu'on a dans le baromètre national de la démocratie local que j'ai eu l'occasion de réaliser en début d'année, on s'est aperçu, on a demandé aux élus, aux 500 élus, de noter la relation à leur maire.
MAIRE.
Si vous deviez noter la relation à votre maire, quelle serait cette note ? On a eu des notes très faibles, je ne vais pas vous dire, parce que on a une note qui est quand même très faible, mais là où il y a des relations en dehors du conseil municipal avec le maire, là où il y a de la concertation, des relations plus informelles, la note est multipliée par deux. Donc il n'y a pas de mystère. Si vous sortez du cadre contraint, un peu convenu du conseil municipal, et vous créez des espaces de débat à la périphérie du conseil municipal, relativement en amont, automatiquement vous changez la donne, vous faites évoluer la relation entre l'opposition et la majorité.
J'ai personnellement constaté que dans ma vie sociale syndicale, puisque j'ai été administrateur au sein de la Fédération Synov, la Fédération des Chambres d'Ingénierie et de Conseil, qu'au début, j'avais tendance à vouloir avoir raison dans les débats. J'étais plus je veux être le winner, je veux être le gagnant du débat. En fait, c'est un comportement complètement idiot que j'ai corrigé pas suffisamment tôt, à mon goût, avec le regard dans mon rétroviseur. Et quand on est dans une autre démarche où on cherche à trouver la bonne solution, le bon compromis qui va générer une convergence ou qui va nous permettre de détecter la bonne solution par rapport à une problématique donnée, et le but, c'est pas d'avoir raison, c'est de trouver la bonne solution. Si notre adversaire, entre guillemets, a une idée meilleure que la nôtre, ou s'il nous démontre que la nôtre n'est pas la meilleure, eh bien, banco, on va prendre son idée. Où est le problème ? La difficulté, l'objectif, c'est d'atteindre la meilleure des solutions pour l'intérêt collectif. Comment ça se fait ? Alors, je fais mon mea culpa là présentement, mais Comment ça se fait que quand on est élu avec un certain nombre d'années d'expérience, comment ça se fait qu'on ne raisonne pas de cette façon-là en se disant « mais finalement, mes adversaires politiques, ils peuvent être aussi des alliés pour défendre des projets ».
Je pense que c'est le système qui génère ce type de comportement. Vous avez des personnes qui, avant les élections de 2020, étaient élus d'opposition et qui dénonçaient les modes de fonctionnement du maire de l'époque, qui ont été élus majoritaires en 2020 et qui reproduisent à l'identique, voire parfois pire, ce qu'ils dénonçaient il y a encore 3 ans. Donc c'est pas les hommes qui sont ou les femmes qui sont en cause, c'est vraiment le cadre réglementaire qui permet ce genre de dérive. Après, moi j'ai à chaque conseil municipal, j'ai une pensée émue pour les élus de la majorité que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont simplement là pour lever la main. Enfin, être élu d'opposition, au moins, ça nous permet de prendre la parole, de dire les désaccords qu'on peut avoir ou les points d'accord qu'on a. On est libre, à la limite, de prendre la parole, contrairement à certains élus de la majorité, de beaucoup d'élus de la majorité, les conseillers municipaux, à qui on demande gentiment de lever la main quand le maire donne le là, et qui passent 2, 3, 4 heures... voire 5 heures parfois en conseil municipal, attendent benoîtement que les débats se terminent.
À faire les potiches.
C'est en quelque sorte la définition qu'on pourrait donner, et c'est dommage.
Mais si je peux me permettre, je pense que le problème est autant vers les élus d'opposition que vers le groupe silencieux de la majorité, ce problème démocratique. Je pense qu'il faut élargir la problématique également à ce groupe de la majorité qui, pour tout un tas de raisons, va suivre sans trop broncher les décisions qui ont été prises par les principaux élus, et notamment le maire. Et je crois que le problème démocratique, il vient également de l'absence de débat interne à cette majorité, ou qui est très peu possible ou quasiment non permis par le cadre d'une commune. Et ça c'est un véritable problème. On le voit bien d'ailleurs, l'outil principal du conseil municipal, donc c'est la délibération. Le maire a la possibilité, hors conseil, de prendre des décisions municipales. J'ai une anecdote là-dessus. C'est vrai que dès le début, un maire qui est peu expérimenté va avoir tendance à faire passer un maximum de ses décisions, on va dire, en délibération, avant de se rendre compte qu'il existe l'outil de la décision. Et il a juste à prendre une délibération, justement, pour faire changer de catégorie une action, un budget ou quelconque action, je dirais, pour pas reprendre le mot décision, pour le faire basculer dans la catégorie des décisions. Et dans la catégorie des décisions, il n'a de compte à rendre quasiment à personne, sauf à lui-même. Et là-dessus, c'est déjà un aveu d'impuissance ou même de faiblesse qui est envoyée à sa propre majorité, que de dire que la majorité des actions que je vais entreprendre passeront par le biais de décisions et pas de délibérations du conseil municipal. Puisque c'est d'une certaine manière reconnaître que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas la capacité d'être sûr et certain de la finalité de ce que j'entreprends. Et donc, évidemment, si je suis tout seul à signer l'acte administratif de la décision, je n'aurai pas de soucis à ce niveau-là. Donc je crois qu'il faut vraiment aborder ce problème au sens large. Et je pense aussi que ce n'est pas un problème d'homme ou de femme, c'est un problème de cadre. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. On le disait juste avant sur les problématiques des commissions qui ne sont pas obligatoires. Il devrait y avoir des commissions obligatoires. Et je pense aussi que la démocratie participative, la démocratie locale, c'est quelque chose qui se pense et qui se construit. Il ne suffit pas de le dire pour le faire. Il faut réellement le construire. Et le construire, ça veut dire prendre du temps en début de mandat pour définir les rôles de chacun, le cadre des interventions. Le temps du débat, il faut aussi qu'il cesse un moment, il faut trouver le compromis. C'est peut-être pas le meilleur ou celui qu'on souhaitait, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Donc il faut aussi construire, et ça prend du temps, cette démocratie participative pour qu'elle soit saine. Et ça nécessite effectivement des temps d'échange en dehors du conseil municipal, en dehors des commissions, des temps d'échange un peu informels pour apprendre à se connaître, peut-être de un, et également aussi apprendre à travailler ensemble.
Et c'est pas, je pense que c'est pas une perte de temps. Moi, je vais prendre l'exemple. Je cite rarement des exemples sur ma commune parce que je pense que ce qui est important, c'est de parler du collectif. Dans ma commune, le conseil municipal a été renouvelé à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'antériorité, il n'y avait pas d'anciens conseillers municipaux avec un historique, des antagonismes. 33 nouveaux élus.
Et sans casserole.
Que du 109.
On aurait pu penser que, fort de cette situation, le maire dise, bon, bah, écoutez, il y a trois listes qui ont été élues au deuxième tour, avec tant de sièges pour les unes et les autres. Moi, je vous propose de nous mettre autour de la table. On regarde des surfaces communes des différents projets qui ont été présentés. Et là-dessus, on peut être que d'accord, puisqu'on portait les mêmes idées. On regarde les points sur lesquels on pouvait avoir des avis convergents, même s'il y avait des différences, et puis on voit comment on peut dépasser ces différences. Et puis après, on regarde les points, les écarts qui peuvent exister, les désaccords qu'on peut avoir, et puis on voit si on ne peut pas rapprocher les points de vue à un moment donné. Et puis après, c'est la démocratie qui fera son œuvre. Bah, pas du tout. Le maire, la première consigne qu'il a donnée à son équipe municipale et notamment ses adjoints, c'est de dire « mais je vous interdis de travailler avec l'opposition ». Donc on voit bien, et aujourd'hui, bah, il est dans des situations très tendues, le conseil municipal ne fonctionne pas, alors que si on avait fait ce travail préalablement, mais vous imaginez le gain de temps que ça peut représenter? Donc si à un moment donné, on prend le temps du... Parce qu'on nous dit souvent, débattre c'est long, ça fait perdre du temps. Si on prend le temps du débat, si on le positionne de manière opportune, c'est un véritable investissement sur l'avenir, c'est un gain de temps, c'est un gain financier énorme pour la commune.
Je pense qu'il faut s'interroger aussi c'est intéressant cet exemple de Triel, pourquoi une nouvelle équipe qui pourtant n'a pas d'historique se positionne tout de suite dans une logique d'opposition non constructive, parce que le principe d'une opposition, c'est de faire vivre aussi, d'interroger la majorité sur ses actions, d'interroger, de contrôler aussi pour le compte de la population. Enfin, c'est un véritable exercice démocratique. Sans opposition, on est dans un schéma politique qui est malsain, indéniablement. Donc, pourquoi tout de suite une nouvelle liste ou des nouveaux élus vont tout de suite se positionner en opposition, c'est le cas de le dire, avec les élus d'opposition, et rarement dans une démarche de constructive. Quelles sont leurs peurs? Pourquoi finalement, je pense que le début de réponse se trouve peut-être dans la compréhension de cette attitude presque agressive, hein, pour avoir vu, on le sait, hein, il y a des élus d'opposition qui, pour simplement avoir posé une question parfois tout à fait pertinente sur un projet, se sont vus subir des attaques personnelles ou en lien avec leurs compétences. Et ça interroge, et je pense qu'il faut peut-être partir de la majorité et d'essayer de comprendre quelles sont ses peurs, de mieux comprendre les réactions de la majorité vis-à-vis de l'opposition, pour peut-être derrière alimenter un cadre de réflexion plus global sur une évolution de la législation sur le sujet.
La réponse, elle est un peu dans la ce question que vous évoquiez tout à l'heure sur la question au premier conseil municipal. Le conseil municipal vote l'octroi de compétences aux maires. Et alors, elles sont énormes. Vous pouvez éviter nombre de délibérations simplement le recours à des décisions.
Notamment les questions d'ordre budgétaire.
Y compris sur les aspects budgétaires, y compris sur le fait de contracter des prêts ou ce genre de choses. Ça vous donne une latitude. Ça vous donne les pleins pouvoirs, on va dire quasiment. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi vous mettriez dans une situation d'aller vers l'autre, de discuter avec l'autre? C'est un peu le système qui génère ce type de comportement. Vous n'avez pas envie de vous embêter avec aller discuter avec des élus qui n'ont pas forcément le même point de vue que vous. Et puis il y a juste un aspect qu'il faut mettre en évidence aussi, c'est que vous sortez juste de la campagne électorale, et que bien souvent les campagnes électorales, elles se déroulent c'est dans un climat qui est parfois tendu. C'est pas pour rien qu'on propose c'est pas pour rien qu'on propose, qu'aujourd'hui le Sénat propose par exemple la protection fonctionnelle pour les candidats aux élections municipales. Ça veut quand même dire qu'il y a un climat qui est assez tendu. Donc il faudrait trouver un sas peut-être entre les deux. Et moi, ce que je voudrais dire en complément, c'est que je pense qu'il faut aujourd'hui, et je voudrais vraiment alerter nos concitoyens sur cet aspect-là, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, il y a un débat, et y compris le président de la République a pris position par rapport à ça en disant il faut qu'on aille vers plus de décentralisation, qu'on donne plus de pouvoir aux maires, plus de liberté aux maires. Moi, je dis que si on continue dans cette voie-là, tant mieux. Je pense qu'effectivement, il faut déplacer les lieux de décision au plus près de nos concitoyens.
C'est probablement plus déléguer aux maires que donner du pouvoir. petite nuance sémantique. Non,
oui, mais au moins, si
ça
on
peut s'accompagner de contrepartie aussi.
Mais ça suppose effectivement que l'opposition puisse pleinement jouer son rôle. Parce que dans ces cas-là, on va aller encore plus loin dans les dysfonctionnements démocratiques, et ça va donner beaucoup de pouvoir au maire, beaucoup de moyens au maire, et à côté, une opposition qui aura encore moins de moyens pour pouvoir véritablement faire son job. Donc la décentralisation, oui, mais pas sans une réflexion sur le rôle que peut avoir l'opposition, les oppositions, les minorités, on les appelle comme on veut, face aux prises de décision du maire et sa majorité.
Alors tout à l'heure, tu disais que le maire avait tous les pouvoirs, et pourquoi est-ce qu'il ouvrirait ses chakras pour débattre avec l'opposition sur les sujets, tous les sujets qu'il a à traiter? Moi, je pense qu'il aurait tort de se priver de faire appel à des compétences qui peuvent être dans l'opposition. Je vais citer un seul cas. Si dans l'opposition, il y a un membre de l'opposition qui a comme spécialité, qui est issu d'un bureau d'études ou qui est architecte, pour toutes les questions d'urbanisme, il aurait intérêt à le mettre dans la boucle des réflexions, parce que lui, il n'a peut-être pas cette compétence que l'autre a, et il peut peut-être le nourrir pour de bonnes idées. Donc le fait de se refermer sur soi-même, c'est une connerie lamentable.
Ah mais moi je reprendrai le terme. Oui, c'est une connerie lamentable, mais c'est un espèce de réflexe d'emblée.
Primaire, presque.
Ou c'est primaire. J'ai observé. Regardez dans nombre de conseils de communes, l'équipe arrivée en tête n'est pas majoritaire. Son projet n'a pas obtenu 50% des voix. Et pourtant, le maire vous dit, je suis majoritaire. C'est mon projet que je mets en place.
Il n'écoute pas les citoyens.
Donc il n'est pas dans l'écoute des citoyens. Il considère qu'effectivement, il a sa majorité. En plus, avec la prime majoritaire, une majorité pléthorique, plus la possibilité de s'octroyer énormément de pouvoir dès le premier conseil municipal. Donc ça ne met pas dans une posture, je dirais, intelligente. Parce que le vrai pari qu'il devrait faire, c'est celui de l'intelligence collective, comme tu le disais à l'instant. C'est de dire, bah oui, il y a autour de la table de l'intelligence, il y a des gens qui, aujourd'hui, mettent plutôt cette intelligence en face du maire pour contester effectivement ce qu'il peut mettre en avant, alors que tout ça pourrait converger et permettre justement de mieux servir nos concitoyens, de travailler sur des projets qui sont des projets d'avenir pour la ville et pour ses habitants.
Et est-ce que dans le cadre de votre recherche, vous avez trouvé des bons élèves ? Ça veut dire des communes, notamment dans les Yvelines, qui ont réussi, elles sont peut-être minoritaires, ont réussi à faire, peut-être ça part des maires, peut-être certains maires qui ont mis les bons ingrédients et qui ont réussi à travailler en bonne intelligence avec leur opposition. Je vous dis ça parce que je pourrais tout à fait illustrer ça avec un exemple, une anecdote juste après, qui montre l'intérêt de parfois de travailler, parfois même la plupart du temps, de travailler en bonne intelligence avec son opposition, ce qui n'empêche pas parfois d'être désaccord et de trancher dans un sens qui ne n'ira pas dans le sens de l'opposition. Néanmoins, est-ce que justement vous avez ce type d'exemple par exemple dans les signataires de vos collectifs? Alors je suppose que ce sont plutôt des gens qui sont pas satisfaits aujourd'hui de leur rôle d'opposant.
Généralement, ils sont pas vraiment satisfaits des relations qu'ils ont avec leur maire.
Mais peut-être que dans le cadre de votre recherche...
Alors, dans le cadre du baromètre de la démocratie représentative dans les communes des Yvelines qu'on vient de lancer, l'idée c'est bien évidemment de repérer les communes où ça fonctionne et d'essayer de comprendre quels sont les ressorts, pourquoi ça fonctionne dans telle commune et pas dans tel autre. Moi, j'ai aucun problème demain. Le collectif, on veut aussi le faire évoluer sous forme d'un think tank. On veut s'ouvrir à d'autres expériences. Si demain, il y a un maire qui a un vrai retour d'expérience à partager avec nous, on est tout à fait prêt à l'accueillir au sein du collectif. On est en train de réfléchir aussi sur du benchmark à l'échelle européenne. Il va y avoir les élections européennes dans un peu plus d'un an. C'est intéressant.
Un peu moins d'un an.
C'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais de te dire pourquoi ça fonctionne dans tel pays, quels sont les ressorts qui font que ça fonctionne et pourquoi ça ne serait pas transposable en France. Je veux dire, l'Europe, elle est souvent critiquée, on dénonce, mais pourquoi ne pas s'intéresser aussi à ce qui se passe à ce niveau-là? Au niveau du collectif, on est prêt, on a commencé à mener une réflexion sur ce qui pourrait être développé dans ce cadre-là. Donc toutes les bonnes idées sont à prendre, y compris dans les rangs de la majorité, s'il y a des bonnes idées, on est tout à fait prêt à échanger là-dessus et dire, mais moi je pense qu'il faut qu'on ait un discours de preuve, vous avez raison. Il faut qu'on ait un discours de preuve qui consiste à dire, mais ce qu'on vous met là en avant, ça se fonde quand même sur des preuves. Il y a des communes où ça fonctionne, ça marche. Et donc, pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans les autres communes?
Justement, je peux vous donner l'exemple en question qui me permet d'illustrer ça. C'est-à-dire qu'une bonne partie des tensions qu'on peut retrouver dans un conseil municipal vient d'un des manquements que vous avez souligné, qui est le manque d'informations. On ne maîtrise pas le dossier puisqu'on n'arrive pas à accéder aux données du dossier. Et donc derrière, les esprits vont avoir tendance à s'échauffer et l'opposition peut commettre des erreurs ou ce genre de choses par manque de données. Là, en l'occurrence, c'était sur c'est plutôt une attaque d'acariens, qui est donc le tigre du platane, qui est donc un petit insecte qui va piquer les feuilles des platanes et qui provoque une chute prématurée souvent pendant la période estivale des feuilles de l'arbre, et qui occasionne un certain nombre de gènes, notamment aux riverains qui habitent à proximité, donc prolifération très importante d'insectes volants, et également taches sur les véhicules qui sont stationnés en dessous. On avait eu l'occasion de le voir, notamment dans la ville de Montesson, qu'une grosse partie des tensions et des réflexions de l'opposition provenaient d'un manque de données, tout simplement. Et on construisait toute une réponse politique, enfin, en tant que service, on appuyait une réponse politique, du moins, vis-à-vis de cette opposition, pour tenter de démontrer leur incompétence et leur non-maîtrise du dossier, mais en même temps, on ne leur donnait pas les données pour se forger et comprendre la problématique.
C'est totalement déloyal.
Et c'est déloyal, mais c'est surtout que derrière, quelle perte de temps. Parce que finalement, si on avait partagé les données, et c'est ce qui a fini par être mis en œuvre, et heureusement, ça a plutôt bien fonctionné, on a ouvert les données, on a expliqué le raisonnement qu'on avait suivi via l'application donc d'une solution bio qui était traitée donc sur les feuilles et qui attaquait les acariens qui piquaient les feuilles, donc le tigre. J'ai le nom qui m'échappe, mais c'est une solution qui a été prouvée et testée par plusieurs autres villes. Et donc, à la vue de cette solution qui était construite, on n'avait pas la garantie, mais c'était comme un projet pilote, et ben ça a tout de suite apaisé les esprits. Donc on voit bien que s'il y a un travail, je dirais à court terme, de partage des données, d'ouverture vis-à-vis de la problématique, on voit tout de suite qu'on peut travailler en bonne intelligence entre une majorité et une opposition.
Démarche constructive.
C'est ce qui s'est passé lors des conférences citoyennes, que ce soit sur l'environnement il n'y a pas très longtemps, c'est ce qui se passera aussi sans doute sur les conférences citoyennes sur la fin de vie. Au départ, il y a une mise à niveau d'information. Tout le monde a besoin de cette mise à niveau d'information. Et après, on parle le même langage. Quand on utilise tel mot, on sait ce qu'il veut dire, parce que les mots
ont un sens. Un lexique partagé.
Voilà. Et on a, effectivement, on part sur un socle qui est commun. Après, on a chacun notre point de vue, on a chacun nos valeurs, on a chacun notre ressenti, et chacun se positionne par rapport à ça. Mais qu'on ait au moins ce socle de départ, et qu'on n'utilise pas l'absence d'information pour dire, ah, vous voyez, ils sont nuls dans l'opposition. Ils ne maîtrisent même pas le sujet. Oui, c'est difficile de maîtriser le sujet quand vous n'avez pas accès à l'information.
Donc, on l'a vu à titre de la situation de grève aujourd'hui à laquelle on fait face en tant qu'habitant du territoire, où aujourd'hui on voit qu'on a la difficulté d'accéder...
Grève du dépôt de bus de Keolis de Montesson.
De Keolis de Montesson, où on a la difficulté à accéder aux données. On a fait une réclamation pour accéder à une convention qui relie l'agglo à Île-de-France Mobilité, et sans cette convention, on est à la limite, hein. En réalité, on peut pas même mettre en cause la responsabilité de qui que ce soit, puisque en toute objectivité, on ne maîtrise pas les relations entre les différents opérateurs.
On ne connaît pas la règle du jeu.
Voilà, exactement. Donc on peut pas, et en toute transparence et en toute honnêteté intellectuelle, je pense qu'on peut pas aller plus loin sans la règle du jeu. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que vous le disiez aussi tout à l'heure en entrée de discussion, que c'est une vraie difficulté d'accéder aux documents administratifs qui établissent et édictent les règles du jeu. Je pense que ça passerait peut-être par là aussi, de permettre à l'opposition d'accéder plus facilement. On parle beaucoup d'open source, de données en libre circulation, en libre information. Et je crois que l'accès à la donnée est une mode en ce moment, mais s'applique encore plus à des élus d'opposition ou à des personnes en situation de minorité.
C'est aberrant, cette situation antidémocratique pour la France.
Il faut se rendre compte que quand on saisit la...
Comment tolère-t-on le fait de faire de la rétention d'informations, de faire du blocage au niveau de l'accès à l'information dans une collectivité locale?
L'information, c'est le pouvoir. Ça a toujours été...
Au dépend des citoyens.
C'est au dépend des citoyens.
Je pense que c'est une impréparation à la... Il y a une discipline qui s'appelle la communication de crise et qui permet justement de prévenir... Je vais dire... Normalement, au sein de l'opérateur qui régit le service de bus, enfin la délégation de service public pour le fait de faire tourner les transports en commun, il doit y avoir un scénario en cas de grève. Comment j'agis s'il y a une grève des conducteurs de bus? Est-ce que je mets en place un service d'appoint, un service minimum? Si oui, à quel niveau, quelle ligne je sers, etc. Et je crois que partager le document, si on est préparé, on le partage librement. Moi, j'ai pas de souci à partager un document si je sais que ma réponse derrière, et j'aurais pas de souci pour échanger avec les personnes. En revanche, si je suis impréparé à la situation, partager le document, c'est faire aveu de mon impuissance et me mettre en difficulté. Je crois que c'est un aveu d'impuissance en réalité, sincèrement.
Oui, c'est le syndrome de Peter.
J'en ai peur en tout cas.
Alors, pour conclure, on était parti sur la loi actuelle qui stipule que, alors je ne sais pas si je le formule bien, 50% je vais te laisser le reformuler, Yvon, c'était 50% de primes.
C'est ce qu'on appelle la prime majoritaire, c'est-à-dire que à l'issue des élections, il y a déjà d'emblée, on va prendre un conseil municipal de 33 élus. L'équipe qui arrive en tête, et qui n'est pas forcément majoritaire absolue, hein, l'équipe qui arrive en tête se voit octroyer 50% des sièges plus 1, donc sur 33, 17 sièges. D'emblée, elle a la majorité absolue, elle a 17 sièges. Et après, les 16 sièges restants sont répartis à la proportionnelle.
La majorité et les oppositions.
Entre la majorité et les oppositions. Donc, ce qui veut dire que, dans la plupart des cas, la majorité se retrouve avec 25-26 sièges et l'opposition avec 7-8 sièges. Mais on voit bien l'écart que ça produit. Et comme je disais tout à l'heure, dans nombre de villes, les écarts sont très faibles. En termes de voix, je vous citais l'exemple tout à l'heure d'un écart de 32 voix. Il y a même des villes où ça s'est joué à 2 voix. Alors bien sûr, vous avez toujours les possibilités de recours juridique pour contester le résultat des élections, mais une fois que le recours juridique est passé, les 2 voix d'écart, elles existent. Et pourtant, vous avez une différence de siège qui est énorme. Et d'emblée, effectivement, ça crée des conditions, ça crée pas les conditions d'un fonctionnement démocratique, ça crée pas les conditions pour que les élus d'opposition puissent remplir leur rôle de contre-pouvoir, parce que numériquement, ils sont plus faibles qu'ils ne devraient l'être. Enfin, et puis, ça pose un problème de reconnaissance aussi du vote de nos concitoyens. Je disais tout à l'heure, 100 voix pour élire un élu de la majorité, 300-400 pour élire un élu de l'opposition. Donc, y compris, ça devrait nous permettre d'être mieux reconnus dans les conseils municipaux, parce qu'on représente quand même chacun 4 fois plus de voix que les élus de la majorité. Si on poussait
En tout cas, il pourrait y avoir des pouvoirs différents. On le voit, par exemple, tout à fait s'inspirer de ce qui se fait dans les sociétés privées, où on peut avoir une petite portion d'un capital d'une société et pourtant avoir des droits associés qui sont pas du tout représentatifs de la proportionnalité du capital qu'on possède. Donc, je pense aussi que ça peut aussi peut-être qu'il faut peut-être aller au-delà de ce seul point de la représentativité, je dirais, plus égalitaire, plus juste des votes qui vous ont été attribués, mais peut-être aller aussi au niveau du rôle et des pouvoirs qui sont attribués aux élus d'opposition. On le disait, l'accès à l'information, la participation à des sujets qui comptent, comme à des commissions, peut-être de manière obligatoire. Je pense qu'aussi l'enjeu se trouve aussi de ce côté-là. C'est un ensemble.
Il y a la question de la prime majoritaire, il y a la question des moyens d'accès
c'est le statut de l'élu de l'opposition,
des moyens finalement. D'accès à l'information, il y a la question des moyens de fonctionnement. Nous par exemple, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les élus d'opposition, comme ceux de la majorité, le groupe de la majorité et les groupes de la minorité doivent pouvoir proportionnellement disposer d'une dotation de fonctionnement annuel qu'ils utilisent comme ils souhaitent l'utiliser. Ça permettrait, moi aujourd'hui, nos concitoyens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, moi en tant qu'élu de la minorité, je paye les frais d'affranchissement. Quand j'envoie un courrier recommandé au préfet, c'est moi qui le paye. Si je veux sortir un tract pour informer les élus, les habitants de ma ville sur la situation, sur un sujet donné, c'est moi qui paye le tract. Les frais de déplacement, c'est pour ma pomme, enfin, et ainsi de suite. Donc, souvent, on dit, ah bah, les élus, ah bah oui, vous êtes contents parce que vous touchez des indemnités. Non, on ne touche pas d'indemnités. Mieux, pire, c'est qu'on paye pour être élu. Et après, il ne faut pas s'étonner non plus qu'on ait aujourd'hui, au niveau des catégories socio-professionnelles, une sous-représentation de certaines catégories, parce que être élu d'opposition quand on est smicard, c'est pas forcément simple à gérer. Et si à ça on rajoute le temps bénévole qui est consacré à l'exercice du mandat, allez, au bas mot, je vais vous faire 3-4 voire 5 jours par mois. C'est quand même. Donc, du coup, il ne faut pas s'étonner non plus qu'on ait souvent des retraités qui s'engagent en politique plutôt que des actifs, parce que ce n'est pas simple non plus à gérer au niveau familial, au niveau professionnel, quand on est élu, et sans doute encore plus quand on est élu de l'opposition, parce que ça nécessite, vu qu'on n'est pas nombreux, un vrai travail sur tous les sujets. Qui est quand même assez conséquent.
C'est un système à repenser.
Dans la vie sociale, quand on donne de son temps bénévolement, la première reconnaissance, c'est la reconnaissance du travail effectué.
Mm-hmm.
Le premier salaire que l'on touche, c'est la reconnaissance, pour reformuler mon propos. Donc cette reconnaissance, telle que vous la décrivez tous les deux par votre expérience, les élus de l'opposition, ils ont la double peine, c'est-à-dire le temps qu'ils y consacrent, et la non-reconnaissance. Et accessoirement, ils ont un manque d'estime de leurs citoyens, puisqu'ils ne font pas bouger les lignes. Alors je vais vous proposer de conclure, parce qu'on a dépassé l'heure, ce qui fait beaucoup plus que ce que nous avions prévu. En tous les cas, Yvon, je te souhaite qu'à l'occasion du Salon des maires, vous puissiez faire passer le message au plus grand nombre de vos confrères pour faire bouger les lignes. Je ne sais pas si pour les prochaines élections municipales qui vont avoir lieu en 2026, je ne sais pas si la réglementation va évoluer. En tous les cas, il faut que les citoyens s'approprient le pouvoir qu'ils ont de mettre un bulletin dans l'urne. Merci beaucoup à tous les deux, Yvon
merci,
et Antoine.
Merci beaucoup. Merci.
Pour compléter cet échange que j'ai eu avec Yvon Rosconval et avec la participation d'Antoine Lemaire, je vous propose aussi d'écouter sur le podcast de Philippe Meyer, Le Nouvel Esprit Public, l'épisode du 22 octobre 2023, Faut-il désespérer de la politique ? Et son complément du 25 octobre des questions du public, dont je vous donne les liens en commentaire de ce présent podcast. J'en profite pour vous signaler que le podcast de Philippe Meyer, Le Nouvel Esprit Public, est mon podcast favori depuis 6 ans qu'il existe et que je l'écoute attentivement toutes les semaines. Si vous avez apprécié ce podcast Génie soit-il, n'hésitez pas à lui mettre quelques étoiles et votre commentaire sur Apple Podcast. Et pour que le génie d'Yvon Rosconval alimente la matière grise d'un large public, notamment des élus, des Yvelines et autres départements, merci de partager cet épisode sur votre réseau social favori, à commencer par le bouche à oreille. Salut !